Je pense que la dernière fois que j'ai prêché, on est parti assez loin dans la Trinité et tout ça. Donc, je me suis dit, il faut être un peu plus sage cette fois-ci. Mais j'ai du chemin à faire là-dessus. Donc, on va commencer série sur Galates. Donc, petite épître, assez important pour les protestants et assez étonnant dès qu'on regarde un peu ce qui se passe dans cette épître. Donc, Galates 1 à 10. Peut-être on pourrait lire le papier que vous avez. C'est vous avez la Nouvelle Bible Seconde à droite et à gauche vous avez Pain sur les eaux qui est la traduction que je prépare avec avec d'autres qui est censée être assez littéraire, comme des formels, mais aussi simple. Donc peut-être quelqu'un pourrait lire la colonne à gauche et si à la fin vous trouvez le mot qui manque, voilà, il y a un bonus. Voilà. Donc peut-être si chacun lit un ou deux versets. Okay, merci. Voilà, on va arrêter là parce qu'en fait, c'est le même texte dans une autre traduction. Mais merci à chacun et à chacune qui a lu. Prions. Seigneur, merci d'ouvrir ta parole. Nous savons que tu es un Dieu qui parle et pourtant nous sommes souvent sourds d'oreilles. Alors aide-nous à entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Voilà, donc, oui, ça décoiffe, non? C'est par rapport à certaines choses que nous lisons, voilà, on a eu psaume 139, c'est très bien, et on se retrouve, et là, début des Galates, c'est tout à fait autre chose. Donc, on va essayer de comprendre un peu et surtout d'entrer dans le texte. Bon, pour répondre à quelques questions, où sommes-nous? Donc, la Galatie, c'est plus ou moins le petit carré autour de la Turquie. Peut-être, je pense, la dernière fois que j'ai vu une carte sur le vidéoprojecteur, c'était Sylvain qui parlait d'un pierre. Un pierre, c'est un peu à droite, en haut, en bas, c'était plusieurs provinces par là. Là, on est au centre, vraiment au centre de ce qui est la Turquie actuelle. On ne sait pas exactement où, dans le sens où il y avait une Galatie du nord, une Galatie du sud, et selon la façon de comprendre, ça bouge de 100 kilomètres, mais voilà, on y est plus ou moins. Et évidemment, toute cette région-là en bas, c'était le cœur de l'Église primitive, et évidemment, aujourd'hui, c'est très loin d'être le cas. Pratiquement tous les lieux que nous visitons dans le Nouveau Testament, où l'Église grandissait, où beaucoup de bonnes choses se passaient, sont maintenant des endroits où il y a très peu de chrétiens. Et ce qu'on voit en fait, c'est l'importance de continuer à proclamer l'Évangile, parce que c'est jamais gagné, c'est jamais assuré, c'est jamais acquis. Pour chaque génération, on est censé de nouveau annoncer la bonne nouvelle, et c'est ce que faisait Paul dans cette région. Voilà. Donc après, typiquement, quand on commence un nouveau livre comme ça dans une étude biblique, dans une prédication, on dit bah, c'est qui et à qui et pourquoi et qu'est-ce qui se passe et tout le reste. Et un peu comme on a fait cette année dans notre étude biblique, je ne vais pas trop faire ça parce que au bout d'un moment, ça devient un peu circulaire. Pratiquement toute l'information que nous avons sur le contexte de cette lettre se trouve dans la lettre. Donc, à un moment donné, bon, je pourrais dire ce que la plupart des gens y pensent sur beaucoup de choses, mais c'est simplement ce qu'on trouve dans le texte. Et après, on a tendance à relire le texte. On sait que c'est comme ça parce que c'était écrit à ces gens-là, mais comment on sait que c'était écrit à ces gens-là? Parce que c'est dans le texte. Donc, on va découvrir un peu au fur et à mesure ce qui se passe là. Il y a quand même un lien avec les actes des apôtres. Donc, les actes des apôtres écrits par Luc, qui visiblement était un peu disciple de Paul, qui aime bien Paul et qui raconte certaines choses qui se passent. Donc, ça nous aide à situer à peu près où nous sommes. Et on est vers le début de la naissance de l'Église. Même là, ce n'est pas tout à fait clair parce qu'on a du mal à recoller précisément ce qui est dit en Galates et ce qui est dit dans les actes des apôtres. On va y revenir dans les chapitres suivants. Voilà. Donc, ça peut sembler déstabilisant si on ne sait pas quand et à qui, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce texte. Et pour moi, il y a une technique un peu technique qui s'appelle critique narrative. Mais en fait, l'idée, c'est simplement de dire, on peut lire le texte comme on lirait n'importe quel livre. Donc, imaginons que vous preniez du Tolkien et ça commence, je pense, la première phrase, c'est voilà, il y avait un hobbit. Voilà. Donc, on ne se pose pas la question où est-ce qu'on situe un hobbit et tout ça. C'est la personne qui l'a écrit, il y a un hobbit, je le prends pour, voilà, il y a un hobbit et après on explique où on est et tout le reste. Et quelque part, le monde est construit par le texte. Et c'est en général mon approche à des textes bibliques, plutôt que de chercher des liens historiques et on peut et parfois on doit. Mon approche est simplement de dire, mais que dit le texte? Faisons confiance à l'auteur et faisons confiance aussi à l'esprit que ce qu'il faut comprendre sort du texte sans devoir faire des galipettes historiques et théologiques et tout le reste. On pourrait juste prendre le texte comme il est. Et donc, c'est ce que je propose de faire. De toute façon, on est, c'est peut-être le premier épître et peut-être l'un des premiers livres de notre Nouveau Testament. On est entre, selon les théories, on est entre 49 et 55 de l'ère chrétienne. Et donc, ça fait 25 à 30 ans après la résurrection. Je pense que la dernière fois que j'ai prêché, j'ai dit avant la résurrection, ça aurait été un exploit. Donc voilà, on est une génération après la résurrection. Donc voilà, assez tôt, l'Église en formation, beaucoup de choses à discuter. Voilà. Bah, je pense qu'avant d'attaquer, il faut quand même parler de Paul, parce que Paul se fait parler de lui. Et surtout au 20e, 21e siècle, ce n'est pas toujours facile avec Paul. Et de ce que je vois, les problèmes se posent à deux endroits. Donc l'un des endroits, c'est simplement, voilà, c'est Paul et... des questions sociales, donc notamment Paul et les femmes, mais aussi Paul et l'esclavage, Paul et soumission aux autorités. Il y a pas mal de sujets que Paul prend par moment et on n'est pas forcément, enfin, on a du mal à digérer ce qu'il dit. À mon avis, ce n'est pas trop le problème avec Galates. En Galates, c'est d'ailleurs l'un des textes, c'est là où on trouve le texte en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. On trouve Paul comme on l'aime, quelque part, donc c'est moins ce problème-là. Mais la deuxième chose, c'est la façon dont Paul parle, et surtout en Galates, comme on a vu, c'est voilà, il commence... Ça commence très dur et à la fin, c'est beaucoup, beaucoup plus dur que ça. Et on, quelque part, on a du mal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je connais beaucoup de gens qui, voilà, qui ont du mal avec qu'est-ce que je fais avec Paul. C'est quand même compliqué parce qu'il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Donc, si on enlève Paul de notre foi, on a un trou béant. On est obligé de marchander quelque part pour que ça marche. Donc, alors, plusieurs pistes. D'abord, c'est quand même une autre époque. C'est il y a une rhétorique, une façon de parler, et Paul est bien dans ce monde-là, même s'il fait un peu à sa façon, mais il reprend pas mal le style d'orateur grec que nous trouvons bizarre. Alors, si ça fait un moment que vous êtes dans l'Église, je dirais même dans les 30 ans, les 40 ans, 50 ans, passé, on a vu un changement. Les prédicateurs aujourd'hui, dans l'ensemble, ne prêchent pas comme les prédicateurs d'il y a 50 ans. Il y a des formes, des façons de faire que tout le monde faisait il y a 50 ans. Et si vous entendez ça aujourd'hui, c'est « oh là là, d'où il sort ?» C'est quand même, il y a quand même, même en 50 ans, on a changé notre façon de parler. La télévision y est pour beaucoup, l'Internet y est pour beaucoup. Voilà, et là, on est à 2000 ans. Donc, je pense d'abord, il faut juste accepter qu'on n'est pas chez nous, quelque part, avec ce texte, c'est notre époque. Voilà, après, oui, on pourrait dire simplement que Paul, il est moins chrétien que nous dans notre culture. Et là, je parle de la question de forme et de fond. Donc, bon, je pense à beaucoup d'exemples, mais pour moi, le truc le plus flagrant, si vous vous rappelez, avant la première élection de Trump, voilà, très soutenu par d'ailleurs par des chrétiens aux États-Unis. À un moment donné, il y a un enregistrement qui sort de Trump qui parle en privé avec quelqu'un d'autre et qui en gros explique comment il voit les femmes et ce qu'il peut faire avec les femmes et Voilà, et voilà, vraiment énormité après énormité. Et ce qui m'a frappé, c'est que pour la première fois, les chrétiens aux États-Unis ont eu du mal avec ça. Non pas parce qu'il parlait de ce qu'il pouvait faire avec les femmes, mais parce qu'il a utilisé un gros mot en disant ce qu'il pourrait faire avec les femmes. Donc c'était vraiment la forme qui, voilà, c'est la forme qui gêne. Et je trouve un peu trop souvent, on est dans cette situation en tant que chrétien. On est très sur le comment on devrait tenir un discours. Et parfois, ça cache vraiment des énormités en ce qu'on dit derrière. Mais si c'est bien dit, tout va bien. Voilà. Et Paul, il n'est pas dans cette logique. Pour lui, c'est le fond qui compte. Il a quelque chose de sérieux à dire, il le dit. Mais attention, tout le monde n'est pas Paul. Donc, rappelons-nous, Paul, c'est à cause de Paul que la plupart de nous sommes ici. Sans Paul, ou sans quelqu'un qui aurait fait ce qu'a fait Paul, l'Église serait toujours une petite secte juive qui n'aurait pas forcément survécu la destruction de Jérusalem. C'est grâce à Paul que l'Église s'est ouverte, que les non-juifs y sont. Littéralement, on est là pour ça. Et tout le monde n'a pas ce rôle-là. Nous avons notre Bible écrite en partie par Paul et inspirée par l'Esprit. Ça fait que quand moi je prêche, je ne suis pas dans la situation de Paul. Je ne crée pas des doctrines, je ne suis pas en train de... Oui, je ne suis pas l'autorité directe. Si j'ai une autorité, ça repose sur la Bible. Donc je pense que parfois on prend un peu trop facilement le... Voilà, tu vois comment Paul y fait. Donc voilà, on n'est pas dans cette situation. Et l'autre chose que je dirais, c'est que tout n'est pas doctrine fondamentale. Nous allons voir progressivement que là, il s'agit de, pour Paul, de vraiment le cœur de l'Évangile. Et ça arrive parfois dans les églises, et pas très souvent. Et je crois que je l'ai dit avant, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans une église, ça finit par être « Ah oh non, c'est la doctrine, oh non, c'est vraiment, il ne prêche plus l'Évangile ». Parce que ça passe beaucoup mieux que on a deux mecs qui ne s'entendent pas, tu vois, ça ne se dit pas. Donc il faut trouver une doctrine fondamentale pour justifier le fait qu'on n'est pas d'accord. Ok? Donc je pense que ce qu'on voit dans les écrits de Paul, c'est qu'il y a une largeur de façon de s'exprimer. Il y a une honnêteté, une énergie qui est impressionnante. On n'est pas obligé d'imiter ça, mais quand même, on voit par ce moyen-là que le sujet importe énormément pour Paul. Alors, petite citation, oui, pour dire, en faisant Galates, j'utilise ce livre-là qui s'appelle Galates ou l'Évangile en crise, écrit par Donald Cobb, qui est enseignant à la faculté Jean Calvin. Il a écrit donc un livre très apprécié. C'est dans une collection catholique. Apparemment, il est le seul protestant qui a été invité à écrire dans cette série catholique. Et il a cette phrase-là que j'ai trouvée assez beau, même si c'est un peu compliqué à dire. Certes, dans une situation d'urgence, Paul écrit avec fougue, n'hésitons pas à fustiquer détracteurs et lecteurs. Mais le soin avec lequel il construit les différentes sections montre que passion n'exclut pas nécessairement réflexion ni cohérence intellectuelle. Et je pense que c'est ce que nous allons voir par la suite. Voilà. Donc, on a affaire à quoi ici? Bon, c'est une lettre parmi d'autres. Paul a écrit 13 lettres dans le Nouveau Testament, 27 livres en total. Voilà. Et on voit qu'il suit il suit un peu la forme des lettres à l'époque, au premier siècle. Je sais, surtout en France, il y a tout un truc de, voilà, ce qu'on met en haut, ce qu'on met en bas. C'est tout. Quand on apprend le français, c'est magnifique, parce qu'en anglais, on met juste dire, machin, et c'est fait. Ben, en français, beaucoup moins. Voilà. C'était pareil au premier siècle. Donc, il y a une façon d'écrire une lettre, et j'en ai déjà parlé. Suivant les débuts de lettre, on reprend la forme grecque classique, et les chrétiens permettent de les changer un petit peu. Donc, dans la forme classique, on parle de la joie. Ça se remplace très souvent par la grâce, qui a un peu le même son. Et on dirait que c'est un truc chez les chrétiens. C'est une façon de dire, voilà, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, mais en gros, on suit cette structure-là. Ce qui est intéressant avec la lettre aux Galates, c'est que Paul fait exprès de déformer cette structure. Et pour le voir, on va vite regarder comment ça se passe dans d'autres lettres. Okay? Donc là, c'est Romains. Dans Romains, voilà. Je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous, par Jésus-Christ, et voilà. Voilà, une question de, après avoir dit, je suis Paul, vous êtes les Romains. C'est une façon de dire, je suis très heureux, en gros, de connaître ce que Dieu fait en vous. C'est un peu les éloges de gens à qui il va parler. Souvent, avant d'entrer dans le détail, mais ça commence comme ça. Voilà, Philippiens, que nous avons vu avant, Philippiens, c'est très tendre comme épître. Et pareil, je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, et il explique pourquoi. Je ne vais pas vous lire tous les mots de chaque exemple. Éphésiens. Alors, Éphésiens, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Voilà, en fait, il y a 17 versets qui font une seule phrase, où c'est la phrase grecque la plus longue du Nouveau Testament, et voilà, où Paul célèbre tout ce qui est magnifique pour nous tous. Hein. Donc voilà, c'est une autre approche, mais voilà, il y a quand même cette espèce de... On fait de bonnes choses ensemble. Et 2 Corinthiens, alors 2 Corinthiens, lettre très compliquée, c'est un peu Paul perd les pédales de... Néanmoins... Il fait toute une explication qui est centrée d'abord sur les apôtres et pour dire nous souffrons ensemble, nous les Corinthiens, on souffre ensemble. Donc à chaque fois il y a cette partie de je fais un contact humain avec les gens qui entendent ma lettre avant d'entrer dans les détails. Mais Philippiens absolument pas. On entre directement dans le vif du sujet et de façon assez violente. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant est simplement et assez rapidement de prendre les 10 versets qui sont là. Et un point que Cobb souligne dans son livre est de dire que typiquement, les 3 premiers versets, on dirait, bon, c'est l'intro, on le saute. Ce qu'on voit, je pense, dans beaucoup de lettres de Paul et surtout aux épîtres des Galates, c'est que dès le départ, Paul prépare son argument. Et c'est presque comme s'il recule pour mieux sauter par la suite. Donc, verset 1. Paul dit deux choses. Donc, il dit, voilà, Paul, je suis Paul, apôtre. Et après, il joue sur le fait que apôtre, ça veut dire celui qui est envoyé. Okay? Le verbe envoyer, c'est apostello. Il est apôtre. Il dit, je suis envoyé, mais attention. Je ne suis pas envoyé par un homme, par l'autorité d'un homme, et je n'ai pas le rôle d'apôtre parce qu'un homme m'a donné ce rôle. Il met bien l'accent sur le fait que c'est Dieu qui l'envoie, c'est Dieu qui l'a nommé apôtre. Donc tout de suite, il veut faire cette distinction et on comprend par la suite pourquoi ça importe. Voilà. Bon, je pense que oui, je pourrais dire en tout cas, c'est délicat pour Paul. C'est délicat pour chacun qui prend la parole dans une église, à mon avis, dans le sens où, alors, si on fait une prédication, le but est quand même de présenter la parole de Dieu. Le but est quand même que ça pourrait changer quelque chose chez l'un ou l'autre. Et je pense que pour tout prédicateur, pour tout président, pour chaque personne qui prend la parole dans une église, il y a quand même une petite tension, parce que d'un côté, on a la prétention de dire on parle de la part de Dieu, et de l'autre côté, on réalise, je vous assure, à quel point on n'a pas tout compris, qu'on est humain, que notre vie est un chantier, et je pense qu'il faut bien distinguer parfois le rôle de la personne. Je pense que c'est même essentiel. Voilà. Oui. Donc après, il y a une section que j'ai appelée vue d'en haut qui n'apparaît pas dans les autres lettres. C'est un truc qui est ajouté. Et c'est presque un sandwich. On a la partie, oui. Donc, on commence avec la grâce de Dieu et de Jésus. Donc, ça, c'est une formulation classique. On avait parlé de Trinité la dernière fois. Là, c'est pas la Trinité toute ficelée comme on a fini par faire, mais dès le départ, c'est une lettre de la part de Dieu et de Jésus dans la même phrase. Voilà, donc on est bien ancré sur Dieu par là. Et à la fin, verset 5, c'est « Gloire à lui pour tous les temps ». là aussi, on revient, on loue Dieu à la fin. Et entre les deux, on a cette partie, Jésus fait le don de lui-même pour les péchés de nous tous. Il nous a ainsi arrachés de l'âge présent qui est mauvais. Il a fait car c'est la volonté de notre Dieu et Père. Okay? Donc, drôle de chose à mettre dans une introduction. Voilà. Et là, on voit un peu comment Paul voit l'univers. Et l'idée est assez simple, c'est de dire que là, on est, c'est toujours le cas, on est sur Terre et voilà, on vit des guerres, on vit des conflits, on vit de la souffrance, la maladie, la mort. C'est compliqué chez nous. Et en haut, il y a le ciel où Dieu règne, où tout va bien. Et d'ailleurs, dans le Notre Père, vers le début, c'est « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ce qui sous-entend que c'est déjà le cas au ciel. Ce n'est pas encore le cas ici-bas, mais ça va venir. Et ce que l'idée de Paul, quand il dit « il nous a arrachés de l'âge présent », c'est-à-dire en quelque sorte, nous sommes là en bas, nous vivons tout ce que nous vivons, et quelque part, Dieu nous prend par la main, il nous arrache de là, et quelque part, on entre en ce qui se passe au ciel. Mais attendez, ce n'est pas l'enlèvement, c'est pas, voilà, abduction, ovni, c'est pas là. Bon, le terme technique, c'est anticipation eschatologique, comme j'ai dit plus bas, c'est, voilà, les pieds dans le gadou, la tête au ciel. On reste ici, dans notre vie, dans notre, oui, là où c'est compliqué, mais en même temps, on a une vue de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu va faire, et ça crée une vraie tension entre oui, ce que nous attendons et ce que nous vivons actuellement. Ok? Donc là, on est bien situé, on est avec Dieu et on a tout le contexte voilà divin quelque part. Et c'est là où on arrive au verset 6. Alors, dans notre traduction, je suis étonné que vous quittiez si vite Dieu qui vous a appelé par la grâce de Dieu. C'est ce que dit toutes les traductions, sauf que en typiquement on ne met pas le mot Dieu. Et là, ça va très fort. Donc on a bien loué Dieu, gloire à Dieu, Dieu nous a sauvés et tout le reste. Et puis tu suis par vous, chers lecteurs. Vous abandonnez non seulement une façon de faire, la tradition de notre Église, ma préférence théologique, là, vous quittez Dieu. Pour Paul, le sujet est important à ce point-là. Voilà. Pareil, tout comme avec apôtre, où il y a une espèce de jeu de mots, c'est pareil avec l'évangile. Donc le mot évangile vient du grec euangelion, qui veut dire bonne nouvelle, ou surtout décret d'une bonne nouvelle. Et dans ce texte, Paul dit en fait, voilà, vous pensez aller vers une autre bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle n'est pas bonne. Mais vraiment, elle est pourrie. Donc il fait un peu, voilà, c'est un jeu de mots qui ne marche pas si on traduit évangile. Derrière, c'est ce qui se passe. Donc, pour Paul, c'est pas une question de préférence. C'est pas, là, j'ai une idée, toi, tu as une autre idée, voilà, je sens plus ou moins. C'est vraiment pas ça. La façon dont Cobb le décrit, c'est de dire quelque part, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est comme, c'est presque comme un endroit. Dieu nous a arrachés, il nous a placés dans cet espace où il y a salut, où il y a pardon, où il y a liberté. Et tant qu'on reste dans cet espace, on vit tout ça, mais dès qu'on quitte cet espace, c'est tout à fait autre chose et il n'y a pas d'issue. Et voilà, la logique est vraiment de déplacement physique qui se fait là. Et puis on a ces textes très très forts où il est question qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que Paul espère pour ces gens qui pensent à autre chose. Et donc là, pour dire, bah, écoute, même si moi, Paul, je vous ai annoncé autre chose que ce que j'ai dit dans le passé, c'est super grave, je mérite d'être mordi, je mérite d'être détruit. Il y a différentes façons de traduire ce mot anathème, mais en tout cas, il n'y a plus possibilité, c'est super grave. Donc, à noter là aussi, même si un ange annonce, savoir le mot ange, littéralement, c'est messager. C'est le même mot. Là, c'est un ange parce que c'est messager du ciel. Donc, n'importe quel messager, même si on va jusqu'à un ange qui arrive, même lui, même moi, ce message ne se discute pas. Voilà. Et après, oui. Donc, là, vous avez vu, il dit presque la même chose, versets 8 et 9, deux fois de suite. Ce n'est pas un accident. Je pense que c'est construit. Et puis, on arrive au verset 10 où c'est, voilà. Est-ce que je suis en train d'essayer de plaire à des humains ou à Dieu? Est-ce que je cherche à plaire à des humains? Si je voulais encore plaire à des humains, et là on retrouve, bah c'est où prédicateur des années 50, ou est-ce que je suis en train de plaire à des humains? Est-ce que je suis en train de presque... Bien sûr, si je... Voilà, c'est ce qu'on dit tout trois fois, c'est... Voilà, ou c'est ça, ou c'est simplement... voilà, on s'énerve, tu vois. On peut imaginer le volume qui monte entre le verset 8 et le verset 10. Et il le dit trois fois. Et donc, deux fois anathème, trois fois plaire aux hommes. Il est bien, bien énervé, mais ce n'est pas un accident. Il construit son texte. Et tout ça pour arriver à la conclusion, à la fin de... arriver à la conclusion, à la fin. Si je voulais encore plaire à des humains, je ne serais pas un esclave du Christ. Donc, tout ce qu'on a vu avant, pour moi, c'est d'arriver à ce point-là. C'est simplement de dire, moi, Paul, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de suivre le Christ. Et ça veut dire que d'être son esclave. Et ça veut dire que c'est à lui que je rends mes comptes. C'est à lui que je veux plaire. Ce qui n'exclut pas de plaire aux autres, de faire de bonnes choses. D'ailleurs, beaucoup de bonnes choses se font autour de Paul. Mais là, il affiche très clairement, ce n'est pas un concours de popularité, ce n'est pas une question de qu'est-ce qui plaît le plus. Je ne suis pas là parce que il y a plus de gens qui m'aiment que les autres. Je suis esclave du Christ. Je suis esclave du Christ et tout ce que je vais dire et tout ce que je vais faire vient de là. Voilà. Bon, qu'est-ce qui est si important en... Il arrivera la prochaine fois, si vous voulez des spoilers, vous pouvez lire le reste de Galates. Il n'y a que 2000 mots, ça se lit très vite. Hein. Mais ce que je vois là, il y a quand même... Comment dire, je pense que ça nous heurte quelque part, parce que cette simplicité de dire « je sais le Christ » et « tant pis pour le reste, je sais le Christ », c'est une façon radicale de vivre de façon radicale de penser qui peut-être passe mal avec notre société où c'est la tolérance, une tolérance qui veut, c'est pas que j'aime ce que fait l'autre, oui, c'est ça, c'est que automatiquement j'aime ce que fait l'autre et sinon ça ne va pas. Paul est à l'opposé de tout ça. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas tous Paul, nous ne sommes pas tous dans cette situation-là, mais pour moi c'est un petit rappel quand même, de dire le centre, c'est Christ, c'est son évangile. Et quelque part, si on ne reste pas avec son évangile, même quand c'est compliqué, on n'a rien à annoncer, on n'a pas d'espoir et on n'est plus la bonne nouvelle qu'on devrait être pour le monde. Donc pour moi, dans ce texte, c'est un rappel de dire Christ d'abord et de lui faire confiance que si on fait comme ça, le reste ira. Mais de toute façon... Christ d'abord. Prions.